Bonjour, Fidélité Mayenne reçoit cette semaine Guillaume Chevrollier, qui est notre nouvel invité. C'est le député du Sud Mayenne. Nous allons évoquer avec lui sa nouvelle fonction, mais aussi d'autres questions politiques. Guillaume Chevrollier, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs.
Merci. Vous avez, je crois, 36 ans. Vous êtes mayennais, vous êtes marié, père de deux enfants, directeur de programme immobilier dans le Sud Mayenne. Tout jeune, vous avez adhéré au gaullisme, vous étiez étudiant en droit, vous avez bien connu l'ancien député Henri de Gâtine. En 2007, vous devenez délégué UMP de la deuxième circonscription de la Mayenne, directeur de campagne de Marc Bernier, qui devient député. Un an après, en 2008, vous entrez au conseil municipal de Château-Gontier. Et tout récemment, Marc Bernier, qui ne se représentait pas, vous a choisi, si on veut, comme successeur. C'est un choix que les électeurs ont ratifié en juin 2012, puisque vous avez été élu député avec 51% des voix. Vous êtes donc nouveau député, élu il y a 3 mois. Comment avez-vous vécu cette période nouvelle pour vous? Est-ce que c'est facile d'être un député de l'opposition?
C'est une mission importante d'être député. C'est pas une tâche facile, mais c'est une tâche passionnante. Vous avez rappelé mon parcours, je suis... Un militant de longue date, malgré mon jeune âge, enfin j'ai un peu plus, hein, j'ai 37 ans. Mais j'ai des convictions fortes, je me suis engagé tôt en politique et je me suis préparé à un jour servir mon pays en tant que député. C'était un mandat qui m'intéressait, hein, représenter une circonscription, travailler sur les lois, représenter des hommes et des femmes d'un territoire pour défendre l'intérêt général de notre pays. Donc c'est une tâche qui est compliquée et effectivement quand on est dans l'opposition, eh bien on est là pour défendre ses convictions avec force. On n'a pas les moyens de la majorité, on n'a pas le pouvoir, mais on a quand même des possibilités d'agir, d'interpeller, ce que j'ai déjà commencé à faire sur certains sujets, mais je pense que nous y reviendrons.
Tout à fait. J'ai vu d'ailleurs que vous aviez posé déjà des questions écrites au Parlement sur le statut de l'auto-entrepreneur, sur le bâtiment, la santé, l'éducation populaire, les enseignants. Et une de vos premières actions a été de démissionner de votre mandat de conseiller municipal de Château-Gontier. Est-ce que vous ne ressentez pas le besoin d'être enraciné dans un territoire ?
Je suis enraciné dans un territoire. Je suis, vous l'avez rappelé, je suis né à Château-Gontier. J'habite à Château-Gontier avec ma famille. Donc il n'y a pas de déconnexion depuis ma prise de fonction en tant que député, même si... c'est vrai que le fait de passer député, c'est vrai que ça a été un changement. Là, il y a eu vraiment un changement quand on parlait du... Certains ont parlé du changement maintenant. C'est sûr que moi, dès le 18 juin, ça a été un véritable changement en termes d'organisation. Mais après, ça n'a pas changé mes habitudes sur le fait d'être aux côtés des Mayennais dans leur quotidien. Donc moi, j'avais indiqué dans ma campagne que je souhaitais être un député à temps complet, un mandat unique en tout cas. Donc voilà, c'était en cohérence avec mes engagements, hein, dire ce que l'on va faire ce que l'on a dit. Et donc, monsieur, je dirais que c'était pas forcément une décision facile parce que je suis bien évidemment attaché à Château-Gontier. C'était un mandat intéressant de conseiller municipal. Et après, j'étais dans l'opposition. Et puis, à Château-Gontier, le maire de Château-Gontier était également candidat aux élections législatives. Donc moi, ma mission de député, c'est une mission... aussi de défense de la Mayenne, et je ne voulais pas être dans une opposition municipale parce que je veux être au service des 102 communes de ma circonscription et plus au-delà, au service de la Mayenne et d'accord. De la France, bien sûr.
D'accord. Alors, une petite question quand même un peu politicienne sur les bords. On parle beaucoup aujourd'hui de compétition au sein de l'UMP, votre parti, entre François Fillon et Jean-François Copé. Certains commentateurs parlent même de duels, fratricides, d'affrontements, de guerres. Comment est-ce que vous voyez cela? Quel est votre engagement dans ces débats?
Je suis engagé, moi je suis un homme de conviction, il y a une compétition interne, moi je considère qu'il faut dédramatiser, c'est normal qu'au sein d'une famille politique il y ait des ambitions, c'est bien de constater qu'au sein de l'UMP on a des hommes et des femmes de grande qualité, moi il se trouve que là il y a deux hommes qui ont bénéficié des parrainages pour pouvoir être candidat. Personnellement, j'ai parrainé et je soutiens François Fillon par amitié, par fidélité. Ça fait longtemps que je le connais, que je le suis.
C'est un voisin.
C'est un voisin. C'est aussi un atout pour lui, la proximité. Et je considère qu'aujourd'hui, c'est le plus à même de rassembler la famille UMP et d'aller au-delà même, hein, parce qu'il faut rassembler à l'intérieur de l'UMP et puis être une grande force politique. Pendant 10 ans, l'UMP, ça fait 10 ans qu'elle existe. C'était un parti de gouvernement puisque nous avons été dans la majorité pendant 10 ans, hein, 2002. L'UMP a été créée en 2002. Donc maintenant, nous sommes dans l'opposition. Donc il y a un nouveau défi pour cette grande famille de la droite et du centre, avec les gaullistes, les libéraux, les radicaux, les centristes. Donc je considère que François Fillon, de par son expérience gouvernementale, de par son expérience politique tout court, et ses qualités personnelles, avec l'équipe qu'il a constituée, a les qualités pour faire en sorte que l'UMP soit un grand parti d'opposition et de conquête pour, le plus tôt possible, reprendre des responsabilités au niveau national, mais aussi sur un plus court terme, bien sûr, le combat des élections locales en 2014, être prêt pour aborder cela et envoyer un maximum de candidats UMP en capacité de reprendre des municipalités en 2014. C'est ça la feuille de route de l'UMP aujourd'hui, à côté d'un combat, bien sûr, que les parlementaires au Sénat et à l'Assemblée nationale, nous devons mener un combat politique face à la gauche.
D'accord. Alors justement, dans ce combat, il y a un projet que vous combattez, c'est le projet de loi Taubira. Ce projet, il s'agit de permettre à deux hommes ou à deux femmes de se marier et d'adopter des enfants. Alors, vous dites que ce projet est dangereux pour la société. Pourquoi est-ce dangereux ?
Alors, j'ai souhaité réagir effectivement à un projet de loi, enfin en tout cas une orientation qui a été présentée il y a quelques jours dans la presse, effectivement, dans la précipitation, hein, c'est arrivé. Enfin, d'ailleurs, tout est fait un petit peu dans la précipitation. Hein. Depuis, moi, le retour d'expérience depuis 3 mois en tant que député, il y a eu une session extraordinaire en juillet pour aborder des textes, mais en fait, avec un ordre du jour très limité, à part augmenter les impôts, mettre fin à la défiscalisation des heures supplémentaires, donc porter atteinte au pouvoir d'achat des Français. Voilà, il s'est pas passé grand-chose d'autre que cela. Et là, à la rentrée, on a cette annonce, là, on revient, comme quoi le garde des Sceaux propose ce texte. Alors, moi, j'ai souhaité réagir tout de suite pour affirmer mon opposition, parce que d'ailleurs, dans la campagne, j'avais clairement exprimé ma position sur le sujet. Je considère qu'aujourd'hui, l'institution familiale, c'est la cellule de base de notre société. Il faut préserver, et c'est un homme et une femme qui fondent une famille avec pour avoir des enfants. Et aujourd'hui, ouvrir le mariage à des personnes de même sexe avec comme conséquence la possibilité de l'adoption, oui. Je considère que c'est effectivement un danger, une déstructuration de notre société et une évolution sociétale qui serait, disons-le, dramatique pour l'avenir de notre société.
Mais alors on dit parfois qu'il faut évoluer, qu'il faut s'adapter, qu'il faut permettre à tous finalement le mariage.
Non mais après, sur certains sujets, on peut être moderne ou en tout cas prôner l'évolution et le non-conservatisme, je dirais. Par contre, sur d'autres, sur des sujets de valeur, sur des sujets de société, il faut savoir être ferme dans ses convictions. Je crois que c'est pas bon pour l'enfant d'avoir, enfin même s'il y a des situations, encore une fois, il ne s'agit pas de faire des discriminations vis-à-vis de certains de nos compatriotes. C'est pas là le sujet. Mais après, il revient au législateur, dont je fais partie, hein, avec d'autres, avec les 577 députés, d'exprimer en conscience une vision de la société. Et moi, je ne souhaite pas cela pour mon pays et pour les enfants de notre pays. C'est après, il y a les droits de l'enfant. C'est pas le droit à l'enfant. Donc ce sont des sujets graves, il faut approfondir la question, mais après il y a des questions de principe dans notre société et il ne faut pas s'aborder les fondements de notre société. La famille traditionnelle est à défendre, même si certaines situations sont parfois sortent du cadre traditionnel. Il faut trouver les outils juridiques. On a déjà aujourd'hui le PACS, hein, qui a été voté il y a quelques années. S'il y a des évolutions juridique à apporter, pourquoi pas, on peut en débattre, mais de là à instituer le mariage pour des personnes de même sexe qui déboucherait sur l'homoparentalité, je crois que ce n'est pas souhaitable pour notre pays et pour la société en général.
D'accord, vous dites que ce projet n'a été l'objet d'aucune concertation, mais de qui aurions-nous dû demander l'avis ? De qui le gouvernement aurait-il dû demander l'avis ?
Je crois que c'est un vrai débat de société où on doit mettre autour de la table tous ceux qui souhaitent s'exprimer sur le sujet. C'est de toute façon, on le voit déjà, c'est un débat qui dépasse déjà des clivages traditionnels de la classe politique entre la droite et la gauche. Mais donc on peut s'ouvrir à toutes les associations familiales, les institutions représentatives, bien sûr, les religions de notre pays. Enfin,
mais aussi les maires, les médecins.
Bien sûr, les élus locaux. Et notamment les maires qui pourraient être appelés à célébrer ce type d'union. Donc voilà, je pense que ça mérite un grand débat. Et encore une fois, aujourd'hui, on n'en a pas parlé depuis le début de notre entretien, mais notre pays, comme l'Europe, traverse une crise économique grave, que le président de la République a reconnu qu'il y a seulement quelques jours. Et aujourd'hui, il faut bien prendre conscience que les priorités pour notre pays, c'est le travail sur la compétitivité, c'est la nécessité de justement de lutter contre le chômage, de maintenir un pouvoir d'achat pour les Français, de préparer l'avenir, l'éducation de nos enfants. Et la priorité, c'est pas de déstructurer une institution qui fait justement la solidité de la société.
D'accord. Guillaume Chevrolier, je vous remercie beaucoup. Nous aurons l'occasion de nous rencontrer ultérieurement pour évoquer tous ces sujets. Merci. Bonne journée.
Avec plaisir. Bonne journée à vous.